Je voudrais, avant de passer la parole à Xavier Desjardins, faire un bref rappel des politiques locales de l'habitat et de leur évolution et des quelques problématiques qui se posent à elles aujourd'hui alors qu'elles sont en train de prendre à bras le corps, je dirais, les politiques, ces politiques et de les mettre en œuvre. Les politiques locales de l'habitat ne sont pas récentes, puisqu'elles sont liées très curieusement aux lois de décentralisation des années 80. Le logement alors restait une compétence d'État, il était garant de la solidarité nationale. Néanmoins, le recours au local est apparu comme une mesure nécessaire pour revivifier les politiques du logement, tiraillées entre trois objectifs. La construction, le domaine du BTP qu'il fallait donc soutenir, assurer un logement pour tous, qui est une priorité très très forte, et enfin accompagner le développement en construisant là où ça paraît nécessaire. C'est pour cela que la loi du 7 janvier 83, je vous remonte un peu à loin, mais c'est pour suivre le fil, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, dite loi de fer, a donc créé la politique locale de logement et plus particulièrement le programme local de l'habitat. Je cite. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent définir un programme local de l'habitat qui détermine les opérations prioritaires et notamment les actions en faveur des personnes mal logées ou défavorisées. Donc on voit ici qu'il n'y a pas simplement qu'une question de territorialisation, il y a aussi un objectif social qui est bien dessiné. Le premier programme local de l'habitat, et si mes souvenirs sont bons, celui de Nancy. Donc pour certaines collectivités, nous en sommes aujourd'hui au sixième. Néanmoins, avant d'arriver donc à ce jour, après cette première phase donc de démarrage des politiques locales de l'habitat, une deuxième phase donc s'est montée en puissance, elle avec la loi Chevènement qui prône l'intercommunalité, et dans ce cadre-là, donc, les EPCI vont progressivement jouer un rôle croissant. Cette montée en puissance s'accompagne d'un mouvement de déconcentration de la politique du logement à partir de 2004, lorsque est mise en place la délégation des aides à la pierre, donc sur la base d'un programme donc, qui fait l'objet de négociations. On note dès lors une très réelle montée en puissance des politiques locales de l'habitat, sur la base d'un diagnostic partagé entre acteurs locaux, d'une stratégie et d'une planification adaptée aux spécificités du territoire. Or, on sait que chaque territoire étant singulier, on peut avoir, de par les jeux d'acteurs, de par la typologie du territoire, et bien plus d'indicateurs, donc des politiques qui peuvent être très différentes les unes des autres. Pour avoir travaillé dans différents territoires, j'ai pu monter ces politiques en territoires ruraux où on fonde beaucoup sur l'amélioration de l'habitat, alors que les problèmes des métropoles sont surtout des problèmes donc de logement, trouver des logements pour permettre le droit au logement pour tous. Le CGEDD, dans son rapport public du novembre 2013, intitulé « Une première évaluation des programmes locaux de l'habitat », note qu'en 30 années d'existence, le programme local de l'habitat s'est un peu à peu imposé. Aujourd'hui, donc, je reprends la date de 2013-2014, près de 700 PLH sont approuvés, alors que la loi n'en rendait obligatoire que 368. Donc, c'est-à-dire que ces politiques locales de l'habitat, le programme local donc, qui en est, je dirais, le point de cristallisation, correspondaient vraiment bon, à une attente. Elles correspondent aussi à des attentes d'élus. Elles sont délicates à monter parce que nous avons des réseaux d'acteurs locaux qui sont très complexes, particulièrement dans l'habitat, comme vous le savez, ce sont des métiers qui ne travaillent pas forcément les uns avec les autres. Et donc, pour créer une dynamique, ce qu'on y a de richesse que d'hommes, mais je crois que la politique de l'habitat est très révélatrice de cette mise en dynamique que doivent susciter les collectivités locales et qui, finalement, quand on le voit, par exemple, dans cet ouvrage « Faire métropole, des nouvelles règles du jeu », qui étudie les prémices en fait des travaux des métropoles sur les politiques, notamment du logement, ce travail sous la direction de Marie-Pierre Lefeuvre, qui montre l'énorme investissement qu'il y a pour connaître, rassembler, réunir, organiser et créer une démarche qui aille non seulement dans un document, mais aussi dans le faire. Donc ça, c'est un point très important, je trouve, hein, des politiques. Évidemment, la politique ne se résume pas au simple diagnostic du PLH, puisqu'elle s'accompagne aussi d'autres dimensions, qui sont, par exemple, les politiques foncières, les politiques par rapport aux personnes les plus démunies, et les politiques qui viennent donc aussi maintenant fonder un corpus, je dirais, nécessaire pour l'élaboration des politiques locales de l'habitat, c'est-à-dire savoir où sont les terrains mutables, par exemple, connaître bien les priorités des PDLPD, des plans départementaux pour l'action des personnes défavorisées, de manière à articuler PLH et PALPD. Donc, on est là sur un ensemble complexe, et parce qu'on l'a bien compris, la métropole est un écosystème. Et pour définir ces politiques sectorielles, c'est toujours assez facile, mais comme tout fonctionne ensemble, arriver donc à mettre en cohérence les connaissances, les effets d'une thématique sur une autre, et pouvoir en redéfinir à la sortie des politiques sectorielles cohérentes, c'est un exercice éminemment délicat. On a vu dans une première génération des PLH donc des choses encore simples comme l'élaboration d'un diagnostic partagé et une meilleure appréhension du logement social. Les premiers PLH se sont fondés sur ces questions de « on a besoin du logement social, on va en créer ». Et donc c'est surtout cette question qui a été mise en évidence. La seconde génération s'est orientée vers des problématiques plus complexes, en ciblant des publics particuliers, fragiles, comme les jeunes, les personnes handicapées, l'hébergement. Et on est dans un système cumulatif, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on passe à la seconde génération qu'on en oublie les acquis de la première. Donc on est un phénomène un peu boule de neige où tout progrès se porte avec lui les générations précédentes. Enfin, il y a une troisième génération, c'est celle des questions d'habitat privé, qui sont très importantes dans les agglomérations, avec la problématique de libération aussi du foncier, et qui ont fait l'avantage de leur apparition dans cette troisième génération. Quels sont les enjeux, pour finir, donc, des politiques locales de l'habitat dans les grandes agglomérations? Pour en citer que quelques-uns, je reprends là le rapport qui a été fait par Espacité pour la DCF. Pour les communautés en secteur tendu, la maîtrise des marchés, le resserrement urbain et la rationalisation de la consommation foncière sont des enjeux prédominants. Le PLH s'envisage ainsi comme un document de régulation et d'encadrement du marché local. Donc, ce qui pose peut-être encore difficulté aujourd'hui dans non pas ce qui est une différenciation par l'échelle mais c'est un autre objet, la métropole, que une grande ville que l'on développe. Je veux dire qu'on est dans un système plus intégré avec davantage d'activités, des problématiques d'habitat qui sont forcément, je veux dire, plus diversifiées aussi. Et donc la compréhension du système de l'habitat reste un enjeu pour l'agglomération. Dans la mesure où on peut mieux connaître effectivement les migrations résidentielles, et ça c'est aussi un travail pour la recherche. Il y a un autre enjeu qui est celui donc, que j'ai pas, donc, que j'évoquais de la mise en cohérence des politiques sectorielles qui est difficile. Un enjeu plus particulier encore qui est dans ce changement d'échelle. La portée, la mise, je me dirais, la mise en synergie de l'ensemble des acteurs, à la fois dans leur renoncement et à la fois dans leur mise en synergie, dans la mesure où, comme le montre l'ouvrage donc de Marie-Pierre Lefeuvre, que je vous conseille vraiment de lire, on insiste à des temps importants de concertation pour pouvoir réaliser une véritable dynamique d'acteurs. Et sans cette dynamique d'acteurs, que serait la politique locale de l'habitat? Donc, le législateur a décidé, à la plupart des métropoles qui ont le statut, enfin, aux métropoles dont la plupart ont un statut de PCI, d'accorder la compétence d'habitat. Alors, le temps est venu de se poser la question. Certes, il y a un certain nombre de métropoles qui étaient métropoles avant l'heure. Ont-elles déjà préfiguré, en quelque sorte, ce statut et ces compétences qui leur sont données, ces nouveaux outils pour le faire? Est-ce que les configurations diverses des métropoles, puisque chacune est absolument singulière tant par sa configuration géographique que par ses acteurs, est-ce que malgré tout ça, ces différences, ces singularités, on peut voir aujourd'hui émerger quelques points de convergence entre les politiques locales de l'habitat qui s'érigerait selon cette nouvelle forme. Et même s'il est trop tôt encore pour en approcher les effets concrets, donc nous avons souhaité donc confier le travail donc ainsi aux universités pour qu'elles puissent effectivement dans leur université, mais aussi en groupe, puisqu'on se réunissait assez souvent. Faire avancer ces travaux. Je laisse la place à Xavier Desjardins.